tous. Nous sommes au sixième dimanche après la Pentecôte et nous célébrons aujourd'hui cette sainte liturgie pour le repos d'une âme de Patrick Trine qui est décédé dans la région de Bretagne. Et donc nous prions pour cette âme qui est allée vers le Seigneur et qui a besoin sans doute de l'aide des prières de l'Église pour la purification qui est nécessaire quand on paraît devant Dieu. C'est l'aide que procure l'Église chaque jour dans le monde. Et c'est pourquoi nous devons prier pour nos défunts. Et surtout, ne jamais oublier, quand nous prions pour les âmes du purgatoire, celles pour lesquelles on ne prie jamais. Donc, et aussi tous les gens qui meurent chaque jour dans le monde, de même que des milliers de prêtres dans le monde célèbrent la Sainte Eucharistie et présentent l'offrande à Dieu du corps et du sang du Christ en rançon des péchés et de la miséricorde de Dieu qui s'applique. Eh bien, il faut prier pour tous ceux qui sont décédés chaque jour. Voilà. Aujourd'hui, pas de texte important, évidemment. L'épître de saint Paul aux Romains résume le projet chrétien. Vraiment. Nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés par le baptême. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, afin que nous aussi, comme le Christ ressuscité des morts, pour la gloire de Dieu Père, nous menions une vie nouvelle. C'est tout le projet chrétien. La mort du Christ, elle est symbolisée et actée curieusement, puisque le Seigneur dit lui-même, si vous voulez être mes disciples, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toute la révélation chrétienne est dans ces paroles du Christ. Le symbole que nous vivons de l'eau, lorsque nous sommes plongés dans l'eau, c'est nous sommes ensevelis. Alors c'est un peu de toute l'explication évidemment de cette théologie du salut, de même que le Christ est mort et ressuscité, de même par le baptême, chacun de nous adhère au Christ et donc nous sommes plongés dans l'eau en principe. Nous, les catholiques donnent 3 gouttes, les orthodoxes sont plus sérieux, donc on plonge vraiment le corps dans l'eau, et même les évangéliques vont carrément sous l'eau. Donc le symbole, c'est le symbole que nous plongeons, acceptons de plonger avec le Christ d'une manière symbolique dans le baptême, et que nous sommes acceptés par Dieu dans ce plongeon que nous faisons, qui dit que nous voulons changer notre vie, et donc c'est tout l'importance, évidemment, de la conversion chaque jour qui est appelée pour les chrétiens. Nous quittons en quelque sorte le monde symboliquement et nous faisons en pénétrer en nous le message du Christ avec l'action que le Christ doit faire pour en nous, qui est le mystère de la grâce, qui est le grand mystère chrétien qu'on n'a jamais épuisé, sur lequel on a évidemment tellement ergoté pendant des siècles, le mystère de la grâce. Saint Augustin s'est fait surtout le champion, saint Thomas d'Aquin ont explicité, ils ont écrit des ouvrages importants là-dessus. Le problème, c'est le problème de la grâce. Si nous, lorsque nous avons reçu le baptême, nous nous sommes engagés à mourir avec le Christ, c'est-à-dire mourir au péché, comme nous disent... Toute la théologie chrétienne est dans cette épître de saint Paul aux Romains. C'est magnifique. Enfin, saint Paul, c'est toujours magnifique. Par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. C'est la promesse de la résurrection. Alors, le baptême ouvre la porte de Dieu par le sacrement qui est institué par le Christ, évidemment, et initié par saint Jean-Baptiste. Mais ensuite, tout le travail qui est donné, nous menions une vie nouvelle, c'est-à-dire que c'est le travail de chrétien qui doit mener une vie nouvelle, c'est-à-dire éviter de tomber dans le péché, et donc la fortification de l'âme se fait par la grâce qui est octroyée aux chrétiens baptisés d'une manière tout à fait spéciale, par son accord avec le Christ. Donc se pose toujours le problème de la grâce. C'était un grand problème débattu, surtout par saint Augustin. Certains ont une interprétation légèrement différente. C'est le Christ qui sauve, et sans le Christ, nous ne pouvons rien faire, parce que l'œuvre de Dieu est venue directement du Christ. En acceptant la mort et la résurrection, le Christ ouvre les portes de la grâce, et sans cette grâce, nous n'avons pas de chance de pouvoir franchement trouver Dieu, puisque le Christ dit, si vous ne passez pas par moi, je connais le Père est en moi et moi je suis dans le Père. celui qui ne passe par moi, pas par moi, et tous ceux qui essaieront d'entrer par les palissades qui ne sont pas dans la porte que moi, je suis la porte, vous n'espérez pas le salut. Donc c'est très grave quand même de dire ça. Ça veut dire que pour ce qui est des chrétiens, la porte se fait par l'ouverture de la grâce. Mais la grâce, elle est dans le baptême certainement, mais elle est comme une graine qui est levée et qui doit lever et qui doit produire du fruit. S'il n'y a pas de fruit, si celui qui fait le baptême ne mène pas une vie chrétienne, la grâce ne vient pas sur lui. C'est pas une grâce qui est donnée comme un privilège de la noblesse sous l'Ancien Régime. On est né comme ça et donc on reste comme ça. Ça a conduit à la révolution, à l'échafaud, à la fin, à cause de ce que on a convaincu le peuple, que comme on convainc le peuple aujourd'hui que la Russie est un ennemi et que l'Iran est un être ennemi, on finit par convaincre le peuple. Et le peuple vit dans l'émissionnel, il suffit de le travailler un peu. C'est comme ça que le Christ acclamé à Jérusalem dans son entrée, quelques jours après, 3 jours après, on convainc le peuple facilement avec des arguments. Le populo est très malléable, on crie vive Barabbas et tout le monde dit vive Barabbas et le Christ est crucifié. Vous voyez, les foules se retournent. Donc le problème du discernement, il est quand même très lié à la présence de la grâce. Donc celui qui ne vit pas le Christ quand il est devenu chrétien, son discernement s'affaiblit parce que la grâce s'affaiblit, c'est tout. Dieu ne peut pas vivre activement, la puissance de l'Esprit Saint ne peut pas être active dans une âme qui évacue le Christ par le péché ou par une mauvaise vie. Donc c'est une obligation et on ne peut pas contourner cela, le problème de la grâce. Alors c'est toujours le Christ qui a ouvert la porte de la grâce, sans lui on ne peut rien faire, mais il ne faut pas croire que le Christ a fait à des privilèges, à des âmes qui ne correspondent pas à la grâce. Donc c'est un travail, cette balance que nous avons en nous et dont nous sommes eh bien, les porteurs de ce cheminement que nous faisons entre la grâce du Christ qui est tout le temps ouverte et tout le temps disposé à envoyer la puissance de l'Esprit sur nous, et puis cette correspondance que nous avons dans le bien et le mal, et que si nous faisons le mal ou s'il ne correspondra pas à ce que le Christ veut de nous, nous stérilisons non pas la présence de Dieu, puisque on le dit dans la liturgie Saint Jean Chrysostome, toi qui es partout présent, qui remplis tout, Dieu est partout, évidemment, et le Christ est partout. Spécialement dans le tabernacle, évidemment, d'une manière qu'aujourd'hui qui est éclairée par Saint Marc, qui nous raconte ce miracle étonnant où 4 000 personnes suivent le Christ dans le désert, et au bout de 2-3 jours, évidemment, ils ont faim, et le Christ fait ce miracle étonnant de la multiplication des pains et des poissons. Il y a une correspondance, évidemment, une préfiguration, il y a le miracle qui est étonnant, qui fait le tour, évidemment, du pays tout de suite, mais il y a pour nous, chrétiens, nous devons méditer sur ce que c'est une préfiguration de l'Eucharistie. Le Christ, les gens ont faim, nous avons faim de comprendre ce que nous faisons dans ce monde où la science ne nous éclaire pas assez pour permettre de voir Dieu. Et le Christ, c'est le visage et la parole de Dieu. Donc le Christ se manifeste par sa parole et il vient multiplier les pains pour une foule qui est affamée de sa parole, puisque 4 millions, avant de faire suivre 4 000 personnes dans un désert, il faut quand même plutôt faire des bonnes actions de par sa parole. Donc le Christ est convaincant, évidemment, puisqu'il est la parole de Dieu, il ne dit pas n'importe quoi, et ces gens, simplement matériellement, ont faim, et le Christ fait cette multiplication des pains qui est une préfiguration de l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie. Alors là, comme c'est pour le pain du ventre, c'est des petits pains, évidemment, que porte un disciple. Dans l'Eucharistie, c'est un pain sans levain. C'est-à-dire que lorsque les Hébreux qui sont esclaves en Égypte doivent quitter l'Égypte, il y a l'urgence de Pharaon qui arrive, et donc ils n'ont pas le temps de faire lever le pain. C'est pourquoi les Juifs mangent le pain azyme, et que, par tradition, Chez les catholiques, on prend aussi du pain sans levain à cause de ça, c'est-à-dire en souvenir de ce qu'il a fallu quitter l'Égypte dard-dard et que le pharaon les suit et donc provoque le miracle d'ouverture de la mer Rouge. Mais le pain sans levain est un symbole très puissant de ce qu'il faut nous, se nourrir avant, dans l'urgence et pour pouvoir quitter l'Égypte, ce qui est le symbole pour le chrétien. Dans l'Eucharistie, que nous mangeons le pain sans levain, c'est-à-dire nous consommons l'Eucharistie, et c'est un pain sans levain qui nous fait signaler dans la symbolique que il y a une urgence, c'est de quitter le mal. C'est de quitter ce que saint Paul est en train de nous dire aujourd'hui, quand vous êtes baptisés dans le Christ, soyez dignes de la grâce qui vient sur vous, sinon vous connaîtrez une vraie mort. Et donc dans l'Eucharistie, nous consommons le pain sans levain, nous nous éloignons de Pharaon et nous avons cette urgence de partir. Mais nous avons c'est l'urgence de recevoir la miséricorde de Dieu qui est donnée tout le temps, parce que c'est symbolisé par l'ouverture de la mer Rouge, la force de Dieu, mais elle est donnée dans l'urgence. Et donc ça veut dire que la miséricorde de Dieu doit se capturer rapidement et avec énergie. Et donc ils ont mangé ce pain qui n'était pas levé, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le cuire. Et donc c'est l'urgence de la conversion pour le chrétien aujourd'hui dans la Sainte Eucharistie que nous recevons le sacrement évidemment initié par Jésus. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il y a quand même des correspondances intéressantes. Que dit l'écriture de saint Marc? Il rendit grâce, il les rompit de sa disciple. C'est ce qu'on dit dans la Sainte Eucharistie, dans l'ancienne formule de l'ancienne messe. Accipit panem in sancta sac venerabilis manus suas. Et elevatis oculis in celum, benedixit, frégit, dedique discipuli suis. Il rendit grâce à Dieu, comme c'est fait ici, il le rompit, il rendit grâce, il le rompit, le donnait à ses disciples. Jésus préfigure vraiment la Sainte Eucharistie, la manière dont on le vit, nous, chaque dimanche ou à chaque liturgie à laquelle nous participons. C'est un beau message. Et ils le distribuèrent à la foule. Et alors, toujours la symbolique que l'on trouve, il y avait sept pains comme par hasard. Chandelier à sept branches, évidemment, c'est-à-dire la perfection du miracle qui va venir, la perfection de l'Eucharistie qui suit l'histoire de l'Église jusqu'à ce que Jésus revienne, qui nous dit « Je resterai avec vous jusqu'à la consommation des siècles ». Comme je vous le dis, le Seigneur est partout, évidemment partout présent, il remplit tout, mais il a voulu être présent. Pourquoi? Est-ce que le Seigneur qui est partout avait besoin tout d'un coup de se trouver enfermé dans un tabernacle? Certainement, parce qu'on y met la réserve eucharistique pour ceux qui en ont besoin. Prenez et mangez-en tous, c'est-à-dire nous sommes faits pour consommer la Sainte Eucharistie, parce que les Hébreux, quand ils ont quitté l'Égypte, n'ont pas mis le pain dans un coin, ils ont mangé rapidement avec des herbes amères. Il fallait quand même mettre un peu de piment de l'époque, et ils partent, et ils consomment avant de partir pour se donner la force d'arriver, de traverser ce bout de désert qui conduit à la mer Rouge, et que, arrivant devant un obstacle majeur, la grâce de Dieu est sur eux et est fait ouvrir par un miracle aussi impressionnant que les miracles sont tous impressionnants. Est-ce qu'il est plus difficile d'ouvrir la mer Rouge ou de nourrir 4 000 personnes avec 7 pains? Je me demande, est-ce qu'il est plus difficile d'ouvrir la mer Rouge, de donner à manger à 4 000 personnes avec 7 pains et quelques poissons, et que le Seigneur soit présent dans les hosties pendant tout le temps où le Seigneur a donné ce sacrement pour nourrir les millions et les milliards de fidèles qui vont venir recevoir la Sainte Eucharistie, pour que le Seigneur se déplace de ce tabernacle que nous avons dans nos églises pour honorer le Seigneur, évidemment, quand il est présent, mais surtout, le but, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps, ça veut dire que le Seigneur veut habiter notre tabernacle intérieur. Or, le tabernacle intérieur, c'est pour ça qu'il est dit, ne mangez pas et ne buvez pas indignement mon corps et mon sang, sinon vous mangez, buvez votre propre jugement. C'est pas que le Seigneur envoie la foudre, c'est que le jugement fait ce que nous dit aujourd'hui saint Paul. Si vous n'avez pas en vous la porte ouverte pour la grâce, vous mangez indignement, et vous ne recevez pas la miséricorde de Dieu, et vous ne recevrez pas l'aide de la grâce. Donc ces portes sont fermées par le discernement, c'est-à-dire que par une mauvaise volonté. Alors le pécheur, lui, s'il est assez humble pour se présenter devant le Seigneur, il est accepté. C'est la belle parabole du pharisien et du samaritain. Comme par hasard, le samaritain, il n'est pas catholique, il est samaritain. Donc, il y a quelques catholiques qui peuvent aller au ciel, tout le monde le sait, puisqu'on le dit assez dans certains endroits. Mais le samaritain, le bon Dieu lui ouvre la porte. Et il ouvre la porte aux non-catholiques. Oh, c'est bizarre quand même, parce qu'ils n'auraient pas dans le temple de Jérusalem, mais évidemment sur le mont Garizim. Le Seigneur a dit que c'était le Samaritain qui était celui qui avait reçu la grâce de Dieu. C'est curieux, ce Christ qui n'est pas si catholique que ça, finalement, on se demande s'il ne serait pas hérétique. Pour certains, oui, sûrement. Vous voyez, il faut être très humble et très ouvert. C'est Dieu qui juge les choses, c'est Dieu qui juge les cœurs, c'est Dieu qui donne la grâce ou qui ne la refuse jamais, mais qui la laisse stériliser par notre bonne ou mauvaise volonté, par notre humilité surtout, parce que ce qui sauve le samaritain, c'est-à-dire le non-catholique, c'est sa grande humilité. Seigneur, je me mets au fond parce que je suis un pauvre pécheur. Et l'autre, il paye la dîme, il va à la messe tous les dimanches, évidemment, il est dans la bonne messe, évidemment, mais... Et le Seigneur ne donne pas la miséricorde à celui-là, celui-là qui est accepté et qui s'en va justifier, dit l'Écriture, il dit le Christ. Donc, c'est celui qui est sur le mont Garizim, mais qui est suffisamment humble pour que le Seigneur puisse donner la miséricorde, non pas à ceux qui sont enfermés dans le rite, mais qui reçoivent le Seigneur dans la bonté de leur cœur, qui convainc le Seigneur de donner la miséricorde et de donner surtout la grâce, et non pas en fonction vraiment de la foi voulue par la synagogue à l'époque, mais parce que c'est là que se trouve le foyer de Jésus, le bon berger. Il s'est présenté comme celui qui était le bon berger. Une quarantaine de prophéties ont donné au peuple juif quand même à méditer sur le Messie qu'ils attendaient à cette époque, d'ailleurs, puisque on avait calculé un certain nombre de semaines, donc le Christ devait paraître par là, ce qui a convaincu évidemment Gamaliel et Hillel, les deux grands rabbins de l'époque, quand ils entendent le Christ, quand il fait sa bar mitzvah au temple de Jérusalem, il voit déjà que quelque chose se passe chez un enfant. Il repère l'Esprit de Dieu qui est sur lui à cause de sa sagesse et réponse. Et donc, Hillel meurt pendant le temps d'ailleurs où le Christ est sur terre. Et Gamaliel finit par se convertir, c'est-à-dire que ce judaïsme, son catholicisme fond un peu pour devenir un peu plus ouvert et finit par suivre le Christ. Donc il reconnaît ce que les autres n'ont pas reconnu, au point qu'ils crucifient leur propre Messie qu'ils attendaient. Le discernement, quand on perd le discernement, quand on a l'orgueil et que on a les avantages d'une structure, c'est-à-dire de la cage où on a enfermé la parole de Dieu, si on met beaucoup de barreaux qui sont très fermés et que la grâce de Dieu ne peut plus y pénétrer, parce que les garrots sont tellement épais, et le Christ leur reproche souvent leurs 613 obligations du quotidien et que la charité ne s'opère pas. Et le Christ est assez sévère avec les pharisiens, donc ils le prennent évidemment. Leur discernement s'est effondré, ils ne reconnaissent pas le Christ et ils ne peuvent pas plonger dans l'eau du baptême avec l'humilité du chrétien qui veut devenir chrétien, qui veut suivre le Christ et qui part pour le cheminement, la mort et la résurrection. Et elle est donnée à ceux qui font cela. Aux Juifs, la cécité est venue sur eux, ils ont crucifié le Christ, et le Christ pleure sur Jérusalem en disant de Jérusalem que le troupeau sera dispersé jusqu'à la fin. Et qu'ils ont essayé quand même, et chaque fois on voit qu'il y a une forme presque karmique, si on devait parler dans la langue un peu de l'esprit oriental, de ce qui les suit, c'est-à-dire une persécution permanente, et en même temps un désir profond toujours de tuer non pas le Christ, parce qu'ils ne peuvent pas le tuer, mais de tuer le christianisme des héritiers du Christ, et que quand on écoute certains rabbins un peu radicaux, on voit que dans le Talmud en particulier, l'ennemi c'est le christianisme, et c'est essentiellement le catholicisme, qui est la religion qui, depuis 20 siècles, alimente tout notre monde occidental, après avoir converti, et une sorte de mariage que saint Paul a favorisé avec la philosophie et gréco-romaine, et cet établissement, nous sommes les héritiers quand même de cette conquête du monde chrétien, et les juifs se sont convertis beaucoup à Alexandrie, ils sont convertis beaucoup à Antioche, ils sont convertis dans les grands centres où étaient réfugiés beaucoup de juifs qui ont suivi l'enseignement des évangéliques et des apôtres, sont devenus chrétiens. Ensuite, il y a eu la vague de l'islam, mais les vrais sémites qui sont en Orient sont ceux-là. Ils sont les vrais juifs, descendants des juifs, parce que c'est eux qui sont sur cette terre et qui y ont fait descendance. Donc c'est... Et quand même, on continue le cirque de ceux qui refusent le Messie et qui attendent notre Messie, c'est-à-dire un Messie qui donnerait le pouvoir sur terre à ce peuple qui s'appelait le peuple élu, en fait, qui, le peuple élu, c'est pas le bon terme, c'est peuple choisi, en hébreu. Ils ont été choisis par Dieu pour la nouvelle alliance. Et quand même Jean-Paul II dit que l'alliance, dans un discours, dit que l'alliance ancienne n'est pas terminée, qu'elle continue, c'est un peu discutable parce que l'alliance ancienne, elle était faite pour que le Messie scelle la nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance est caduque, et comme les sacrifices sont caduques dans le temple de Jérusalem, et ce qu'on faisait, le Seigneur a fait détruire le temple, et donc la nouvelle alliance, c'est la nouvelle alliance dans le Christ et le peuple de Dieu. L'universalité du salut qui était déjà en germe dans l'Ancien Testament est proclamée par le Christ. La preuve, lorsque le Samaritain arrive, c'est lui qui est justifié à cause de sa droiture de cœur, son humilité surtout. Il est pécheur. À cause de son péché, il se tient loin de l'autel, et l'autre qui est imbu de lui-même et qui verse les taxes et qui fait, celui-là est enfermé dans une mauvaise compréhension, c'est-à-dire l'effondrement du discernement qui est le signe de l'absence de la grâce. Et le signe de la puissance, de la présence de la grâce pour nous chrétiens, c'est pas parce qu'on insiste à une bonne ou une mauvaise messe, c'est sûr que c'est important le rite, et évidemment c'est rythmé depuis 20 siècles, et l'Église, si l'Église n'est pas là avec pour écouter la parole de Dieu et transmettre les sacrements, il n'y aurait rien aujourd'hui de Jésus-Christ, mais le signe véritable de la présence de Dieu chez les chrétiens, c'est la mesure de la charité. Celui qui n'est pas charitable, il n'est pas de Dieu, il se trompe de chemin. Il croit qu'il est de Dieu, mais c'est la mesure de la charité. Il y a deux mesures pour mesurer le poids des âmes, si nous pouvons en juger par là, parce que c'est Dieu qui juge tout à la fin, parce qu'il y a des âmes discrètes dans la charité, il y a des âmes très qui montrent qu'ils font la charité. Mais le poids de la grâce dans les âmes, pour ce qui est de la sainteté à laquelle Dieu nous appelle et qui nous fait cheminer, et c'est certainement l'humilité, la première des marques. La deuxième, c'est la charité, parce que ça, c'est très important. Si on n'a pas la charité, c'est pas des disciples du Christ. C'est le rosaire. Une fois de plus, je le répète, le troisième mystère, Jésus soumis à la Sainte Vierge, Saint-Joseph, sur le Rhin, n'arrive pas d'auberge. On fait confiance à la Providence. Le Christ naît dans une crèche, toujours là où il faut pas. Évidemment, il aurait pu naître... au Hilton. Non, il est dans une crèche, et s'il revenait probablement, il serait à Gaza, ou Dieu sait où, au milieu sous les bombes, ou chez les Arméniens qui ont été chassés d'Arménie par les... C'est là que naît le Christ, c'est là qu'il a voulu venir, confiance dans la Providence, pose pas de questions, on part et on... Et le quatrième mystère, c'est la purification de la Sainte Vierge Marie. C'est les trois purifications qui sont nécessaires pour les âmes, sans quoi la grâce s'estompe et la miséricorde de Dieu est empêchée. Elle est là, mais elle est empêchée avec la grâce. La purification du cœur, donc la purification de l'esprit, c'est-à-dire repérer ce qui, dans notre vie, ne sont pas les bonnes idées et les mauvais plans, et la purification du corps, c'est-à-dire mener une vie digne et honnête et chaste. Ceux qui sortent de là, vous savez, beau bénir les couples, si ce n'est pas des couples que le Seigneur protège dans sa bénédiction, c'est rien. Donc c'est... Et le dernier mystère, c'est... Je m'arrête au mystère joyeux, parce que sinon on peut faire tout le parcours, mais bon, il faut que je m'arrête. Le dernier mystère, c'est Jésus retrouvé après 3 jours de recherche au temple. Pendant 3 jours, il cherche partout. Il cherche qui ? Il cherche le Christ. Nous devons rechercher le Christ en permanence, c'est-à-dire essayer de retrouver le Seigneur, surtout si nous perdons un peu le chemin qu'il a pris. Donc chercher le Christ, c'est la persévérance dans la fidélité au Christ, à la recherche, non pas seulement du message du Christ, de la présence du Christ en nous, et donc y chercher pour, non pas pour trouver les paroles de Jésus, pour retrouver Jésus. La Sainte Vierge était affligée et Saint Joseph était affolé à l'idée qu'il aurait pu se perdre. Un enfant, un bar mitzvah, c'est encore c'est la transition entre l'enfance et l'adolescence. Il cherchait, voyez. Alors, quand la Sainte Vierge apparaît en toutes les apparitions avec un chapelet, il y a une raison. Dire le chapelet. Alors, si on peut dire le rosaire, on dit le chapelet. Si on ne peut pas dire le chapelet, il y a une manière très simple. Quand on ne peut pas faire autrement, on dit les 5 mystères avec ses intentions pour avoir la grâce que Dieu nous vienne par les mérites de la Sainte Vierge Marie qui est la Reine des Saints. Et donc, quand je parle de la plénitude de la grâce, la Sainte Vierge, qui est l'épouse du Saint-Esprit, elle a la plénitude de la grâce. Par transmission, ça veut dire que le bon Dieu n'a pas voulu rester tout seul et dire moi j'ai tout et je vous donne avec parcimonie, soyez gentils sinon c'est le coup de bâton. Non, ceux qui ont suivi le Christ, qui sont morts et ressuscités avec lui comme la Sainte Vierge, meurent avec le Christ et ressuscitent avec lui, évidemment, quand le Seigneur revient la voir, quand il est ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Le Christ donne la plénitude de la grâce et le pouvoir du miracle à ses saints. Et plus on est saint, plus on peut obtenir le miracle. Je regardais ce matin une vie du Père Charbel, où on dit que 30 000 miracles ont été faits par le Père Charbel, qui vit une vie toute simple, très peu connue. C'est parce qu'on a vu des lumières sur sa tombe que tout d'un coup on s'intéresse au Père Charbel, et quand on ouvre son tombeau, à cause de ça, on trouve qu'il est intact. Ah bon, la fournaise libanaise... Laisser un poulet sur une table 3 jours, vous allez voir ce que ça donne. C'est comme ça, le miracle, la sainteté cachée de cet homme qui est le sommet des miracles. Le Padre Pio a fait pas mal, mais celui-là, c'est incroyable. Et un liquide corps sort de ce corps et remplissait. Quand on a ouvert le tombeau, il était quasiment nageant dans une sorte de mélange d'huile et d'un liquide odoriférant. Et c'est là sont venus des milliers, 30 000 miracles estimés à Naya. C'est incroyable. Vous voyez, donc, c'est le travail. Et nous avons, nous, chrétiens, la poursuite du miracle. Et puis, quand on dit, oui, évidemment, on ne l'évite pas tous, on n'est pas en train d'ouvrir la mer Rouge, et quand j'ai envie de traverser le Gave, j'enlève mes chaussures, je traverse, je n'arrête pas le Gave. Je ne demande pas au Seigneur. Mais on a des petits miracles. Si on a conscience de la présence de Dieu en permanence et qu'on suit ce chemin qui nous est indiqué dans le rosaire par la très sainte Vierge Marie, on a forcément les petits miracles de la vie. Ça veut dire que la vie, comme je le dis souvent, est une vague. Quand ça va en haut, on est très bien sur le dessus de la vague, et puis on descend en bas par la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en bas, on mesure l'importance de ce qu'est la vie. La mort est présente en nous par la volonté de Dieu, et la souffrance est présente en nous par la volonté de Dieu. Et lorsque on a la lanterne du Seigneur, quand ça va très bien, on a la lanterne du Seigneur, mais quand ça va pas, on a aussi la lanterne du Seigneur qui nous dit « Ne vous en faites pas, je suis avec vous, et moi-même j'ai pris le chemin de la souffrance pour accompagner votre souffrance, pour que vous sachiez que je n'ai pas été hostile à la propre souffrance, que j'ai acceptée, et cette souffrance, pour éviter la moindre violence, je l'ai accepté comme un don que j'ai fait, parce que ce que je dis souvent, cette parole magnifique qui a été trouvée chez René Girard, qui était un grand philosophe et quelqu'un de très bien au début, il était un peu à côté, mais il a compris le sacrifice du Christ. Parce que l'amour de Dieu tout simplement ne s'est pas retiré. Dans la souffrance extrême de la croix, dans la souffrance du ministère que Jésus a fait sous la chaleur, dans le froid, dans des grottes, parce qu'il dormait quand même souvent dehors, tout ça, c'est la charité, la souffrance du Christ, son amour ne s'est jamais retiré. Donc nous devons suivre cet exemple, essayer de faire que dans notre vie, l'amour ne se retire pas, même quand il devrait se retirer manifestement pour le monde, pour le Christ, non. Et il se demande d'aimer même notre ennemi, c'est comme ça, c'est la vie chrétienne, c'est magnifique, c'est un chemin magnifique, et le monde doit continuer jusqu'au retour du Christ. De même qu'ils ont cherché le Christ pendant trois jours, nous devons rechercher pas seulement les paroles et les enseignements et les convictions que l'on trouve sur YouTube, que le Christ est vraiment le Christ, qu'il n'est pas le Christ, entre tout ça, le migondi qu'on nous fournit, qui occupe souvent notre intelligence. Non, rechercher cette présence, la présence de Dieu. Lorsque nous faisons nos prières le matin, prions d'abord Dieu le Père, qui est le Père créateur, mettons-nous en présence de Dieu qui est partout et qui remplit tout. Trésor de bien qui donne la vie, viens et demeure en nous, dit Saint Jean Chrysostome dans sa belle début de la liturgie, demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté, tout est là. Et là aujourd'hui dans Saint Paul Romain, c'est bien, soyons plongés dans le baptême du Christ qui meurt et qui ressuscite, et le baptême est une démarche que nous devons faire chacun de nous. On monte sur la croix plus ou moins, mais on ne peut pas quand même faire aussi loin que le Christ. Mais accepter le symbole de l'eau, qui est l'eau purificatrice, être immergé dans l'eau par l'Esprit du Christ et recevoir le Saint-Esprit, car dans ce baptême du Christ, la colombe apparaît et celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dieu le Père parle, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.